Découvrez la programmation 24-25 de l'OSM. Assistez au grandiose concert d'ouverture, Les Gourlidaires de Schoenberg, dirigé par Raphaël Payaré et réunissant plus de 350 artistes. Ou prenez part au Festival Mozart avec des œuvres maîtresses comme le Requiem et Così fan tutte. Économisez 25% à l'achat de 4 concerts ou plus. L'OSM, votre classique. En vente maintenant sur osm.ca et sur placedesarts.com. L'OSM est présenté par Hydro-Québec.
Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute! C'est un métal jeune qui a changé le destin du monde libre et qui est intimement lié au développement du Québec. Ici Maxime Coutier, à Aujourd'hui l'Histoire, l'aluminium.
Tout ce qui mérite d'être conservé mérite d'être bien conservé avec le robuste papier d'aluminium Alcan. Rien de plus pratique dans la cuisine et la maison. 4 formats pratiques, idéal pour faire cuire, envelopper, faire geler et conserver. Il se plie facilement. Excusez-moi, mais enveloppez-vous tout dans le papier d'aluminium Alcan?
Une vieille pub de la multinationale de l'aluminium en novembre 1963. À l'époque, l'usage ménager du papier d'aluminium était relativement nouveau, mais le célèbre métal était connu chez nous depuis longtemps. Durant la Deuxième Guerre mondiale, le Canada produit 90 % de l'aluminium du Commonwealth. C'est le quart de la production mondiale. L'Alcan devient alors un fleuron canadien, un empire industriel qui a modelé le destin de certaines régions.
L'Alcan est au Québec depuis 65 ans. Le plus vaste complexe d'aluminium au monde est celui de l'Alcan, dans la ville modèle d'Arvida, en bordure du Saguenay. Aussi, l'Alcan est-elle en excellente position pour participer à l'édification de la Terre des Hommes. L'aluminium Alcan, d'ailleurs, est déjà présent sur l'emplacement de l'expo depuis le début des travaux. Des camions à benne d'aluminium Alcan, par exemple, sont constamment employés par les entrepreneurs sur le terrain de l'expo. Et l'aluminium Alcan entrera dans la construction de nombreux pavillons. Ainsi, la structure de celui des Pays-Bas sera entièrement faite d'aluminium Alcan. Oui, l'Alcan qui progresse au même rythme que notre pays sera présente à l'expo, puisque l'Alcan qui produit chez nous de l'aluminium pour le monde entier est présente partout où se manifeste le progrès.
Partout où il y a le progrès. Vidéo promotionnelle de l'Alcan en vue de l'Expo universelle de 1967, c'était à notre télé 2 ans plus tôt, en décembre 1965. Alors pour nous en parler, mon invité aujourd'hui, Lucika Morisset, elle est professeure au département d'études urbaines et touristiques, titulaire également de la chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM à Montréal. Bonjour.
Bonjour.
C'est pas tous les jours qu'on parle à cette émission de l'histoire d'un objet ou d'un métal, mais l'aluminium au Canada, c'est beaucoup plus que ça.
Ben, c'est aussi un phénomène de société. C'est un phénomène qui a changé l'histoire, la société canadienne au 20e siècle, la société québécoise aussi. L'aluminium, c'est le métal le plus présent à la surface de la Terre aujourd'hui, mais c'est aussi le métal qui est le plus difficile à extraire des éléments avec lesquels il est combiné, qui demande donc beaucoup d'énergie. Mm-hmm. Beaucoup d'énergie, on pense au Québec, à hydroélectricité. Et c'est comme ça que l'aluminium va changer un peu le cours économique et social du Québec, du Canada au 20e siècle.
Oui. Alors, c'est quoi l'aluminium? J'ai entré évidemment dans les détails techniques, là, aux biochimiques, mais c'est quoi?
Ben, l'aluminium, c'est un métal comme le cuivre, comme le fer, qui est beaucoup plus léger, par exemple 3 fois plus léger que l'acier, qui est beaucoup plus conducteur que le cuivre, qui est résistant à la corrosion. On a l'impression que c'est jamais rouillé, l'aluminium, oui. Parce qu'en fait, c'est toujours recouvert d'une fine, fine couche d'oxygène qui le protège continuellement. C'est donc, comme je disais, un bon conducteur, c'est un métal souple, un métal léger. Bref, un métal avec lequel on peut faire tout ce qu'on pourrait rêver de faire au début du 20e siècle. Et c'est exactement comme ça qu'on a envisagé ce métal, ce nouveau métal qu'on a découvert très tardivement au milieu du 19e siècle et que donc on va commencer à exploiter au 20e siècle en se disant qu'avec ce métal magique du 20e siècle, comme on l'appelle, on pourrait aussi créer une société idéale, idéale comme toutes les applications que la production de ce métal-là permet d'envisager.
Oui, c'est intimement lié. C'est intimement lié aussi au développement de certaines régions chez nous. Quand on pense aluminium, spontanément, on pense tout de suite au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Lac-Saint-Jean. Or, à l'origine, ça se développe plutôt en Mauricie, à Shawinigan. Pourquoi?
Ben, en fait, ce qu'on cherche, c'est de l'hydroélectricité. Et au tournant, à la toute fin du 19e siècle, l'inventeur de l'électrolyse de l'aluminium, ce procédé qui va enfin permettre de produire de l'aluminium en grande quantité, comme quand on fait passer un courant électrique à travers de l'eau. Ben là, on fait passer un courant électrique à travers de la cryolite, un petit peu plus complexe. Mais ça va nous permettre ça, de faire de l'aluminium. Ça nous demande de l'électricité, donc de l'énergie. Et de l'électricité, il y en a à Shawinigan. À l'époque, on se dit, en fait, on voudrait bien, comme avec toutes les ressources naturelles, les exporter ailleurs, ce serait plus simple. Ce serait plus simple pour les producteurs aussi. Mais on ne peut pas transporter l'électricité sur de longues distances au tournant du 19e siècle, au tournant du 20e siècle. Et c'est comme ça que l'entreprise que Charles Hall, l'inventeur d'électrolyse, a créée, qui s'appelle à l'époque la Pittsburgh Reduction Company, qui va devenir l'Aluminium Company of America, l'Alcoa, va venir s'installer à Shawinigan pour produire de l'aluminium de façon industrielle.
Et pourquoi de Shawinigan, la production se déplace par la suite plus au nord vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean?
Ben, dans l'entre-deux-guerres, on va découvrir, il y a pendant quelques années, justement autour de cette question de la production d'aluminium, il y a une course entre différents rivaux aux États-Unis, notamment Henry Ford, des automobiles Ford, et Arthur Vining Davis, qui est président de l'Aluminium Company of America et qui cherche des bonnes sources fiables d'électricité, donc de l'hydroélectricité. Et là, on va découvrir qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, grâce au grand bassin du lac Saint-Jean, on a un potentiel de développement hydroélectrique qui est absolument sans rivaux à l'époque partout sur la planète. Et on se dit que là, on va pouvoir créer des centrales hydroélectriques les plus puissantes les unes que les autres à l'époque de leur construction. Et c'est ce qu'on va faire à partir de 1925.
Ouais. Donc, des avantages, un rappel ici, Léon Lortie et André Rochon qui énumèrent justement les avantages du Saguenay. C'était à notre radio en février 1951.
Le minerai d'aluminium n'est pas d'origine canadienne. Il vient en effet de la Guyane en majeure partie. Et on le traite ici surtout à cause des ressources hydroélectriques de la région du Saguenay. C'est là que se trouve la fameuse centrale de Chibcha que j'ai eu le plaisir de visiter il y a quelque temps. Mais cette centrale sert-elle exclusivement à alimenter les usines d'Arvida?
Oui, toute cette électricité est utilisée par l'usine. Il ne faut pas oublier, M. Lortie, que chaque livre d'aluminium produite nécessite la dépense de 10 kWh et que 2 millions de livres de métal sont produits chaque jour. C'est la raison qui a fait choisir Arvida comme site d'une usine de réduction d'aluminium, en dépit du fait que les matières premières comme la bauxite, le coke, la cryolite doivent être transportées de fort loin. La production économique d'aluminium nécessite la disponibilité de grandes quantités d'énergie électrique à bon marché, qui existait à l'état potentiel sur le Saguenay et ses affluents.
Je suis sûr que la ménagère qui se sert d'une casserole d'aluminium ne pense pas à tout cela.
Bon, on imagine. Nul bon père de famille, d'ailleurs, hein, qui sert peut-être aussi de la même casserole, on l'espère. Quand on dit que l'aluminium a modelé le destin du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est pas qu'une métaphore. L'aluminium donne naissance aussi à des villes. Et là encore, spontanément, on pense à Arvida, ville modèle. C'est quoi Arvida?
Ben, à la fois parce qu'il y avait toute cette quantité d'énergie, mais aussi parce que l'aluminium prêtait à rêver une société modèle. On s'est dit qu'on pouvait donc créer, autour de l'utilisation de l'aluminium, mais autour de la production de l'aluminium, une société plus juste, plus égal, où les personnes seraient mieux logées, habiteraient dans des logis modernes, auraient accès à l'éducation. Et Arvida, c'est cette cité modèle qui va donc être construite pour recevoir ce qui va être pendant une grande partie du 20e siècle la plus grosse usine d'aluminium du monde, c'est-à-dire une usine qui est une usine, ce qu'on appelle une usine intégrée, donc une usine avec de l'extraction de l'alumine de la bauxite, c'est la première étape de la production d'aluminium, la raffinerie de bauxite pour avoir de l'alumine, et une usine où on a des alumineries, comme on dit au Québec, c'est d'ailleurs un québécisme, des alumineries, donc, où on fait de l'électrolyse de l'aluminium. Donc, une usine intégrée qui va être, pendant la majeure partie du 20e siècle, la plus grosse au monde, avec autour une cité modèle qui, par ses habitations, par l'éducation qu'elle offre à ses citoyens, par le modèle de vie qu'elle propose dans une ville libérale, est un peu l'équivalent, en termes de société, des promesses chimiques et industrielles de l'aluminium.
Oui, Oui, c'est un peu la ville de compagnie par excellence, c'est Arvida, là.
Absolument, hein? Oui, absolument.
Ouais. Pensez, à l'extérieur, mais ça a été un succès, puis construit très, très, très rapidement, c'est assez exceptionnel. Ville modèle, mais certains y voient une menace pour l'identité canadienne-française, et notamment le clergé. Pourquoi le clergé résiste à ça?
Bien, dans l'entre-deux-guerres au Québec, on est à l'enseigne de ce qu'on a appelé, les historiens ont appelé l'idéologie clérico-nationaliste.
Oui.
Donc, l'idée, c'est qu'on va défendre, refaire naître au Québec la race, la langue et la foi, comme on le dit à l'époque. Et évidemment, de ce point de vue-là, et du point de vue de l'Église, l'industrie, ça corrompt les jeunes filles, ça rend les hommes malheureux. Enfin, bref, c'est vrai que ça crée beaucoup de désordres sociaux. Donc, l'Église est plutôt réfractaire à l'idée de l'industrie. Alors, ajoutons à ça qu'ici, il s'agit d'une industrie qui parle anglais, puisqu'elle vient des États-Unis. Une industrie qui parle anglais, qui est menée par des gens qui sont réputés être protestants. Alors, tout ça, ça va très mal. On va ajouter à ça le fait que pour développer, en effet, cette industrie aluminière, on va créer des centrales hydroélectriques. Et pour créer ces centrales, on va devoir rehausser le niveau du lac Saint-Jean de quelques mètres au détriment des terres agricoles qui se trouvent là. Donc, ce qu'on a, c'est l'industrie anglaise et protestante contre la bonne agriculture canadienne-française. On a appelé ça, les historiens ont appelé ça la tragédie du lac Saint-Jean, certains historiens clérico-nationalistes de l'époque. Et c'est encore aujourd'hui, quelque part en arrière-plan, de peut-être une rivalité qui existe entre ces deux régions, le Saguenay et le lac Saint-Jean aujourd'hui.
Ah oui. Un exemple ici, en tout cas, puis c'est curieux parce que ça vient quand même d'un allié des autorités religieuses, c'est Maurice Duplessis, tel que rapporté dans ce reportage de Jacques Fauteux à notre radio, 22 juin 1958.
Le premier ministre du Québec, après une envolée rendue pénible par le mauvais temps, a présidé à l'inauguration officielle d'une aluminerie à Baie-Comeau, sur la rive nord du Saint-Laurent. Un banquet réunissait dans la soirée près de 500 personnes, dont 200 personnalités du monde politique et celui des affaires. Les invités de toutes les régions du pays avaient pour la plupart débarqué de navires nolisés pour la circonstance. Le chef du gouvernement du Québec a félicité l'entreprise britannique dont la collaboration avec des capitaux américains a permis l'établissement de l'usine. M. Duplessis a qualifié d'extrémistes ceux qui s'opposent à l'exploitation de nos ressources naturelles par des capitaux étrangers.
Voilà, oui, l'aluminium, une industrie anglo-saxonne, vous l'avez dit. L'exploitation de nos ressources qui sont devenues très, très, très prisées durant la Deuxième Guerre mondiale, donc on tourne quelques années en arrière. Pourquoi l'aluminium joue un rôle si important durant le conflit 39-45?
Bien, l'aluminium est utilisé dans les conflits mondiaux depuis auparavant. Déjà, pendant la Première Guerre, on l'utilise en poudre comme explosif. Mais évidemment, ce métal léger va se prêter à des applications qu'on voit bien pendant la Deuxième Guerre mondiale, des châssis de véhicules, évidemment, et puis des avions qui sont un outil stratégique de ce conflit mondial. Et dans ce conflit mondial, donc, l'usine d'Arvida, où on a cette usine intégrée, où on produit l'alumine et où on fait l'électrolyse de l'aluminium, cette usine intégrée va occuper un rôle absolument déterminant, tant et si bien qu'on va déplacer à Arvida tout ce que le Canada comporte à l'époque comme batterie antiaérienne, par exemple, pour protéger l'usine qui a cette production stratégique pendant la guerre.
Pour un métal très précieux, vous l'avez dit, plus léger que l'acier traditionnel. Un exemple ici, British Pâté de la BBC qui salue l'effort militaire du Canada et du Québec où on construit à ce moment-là, on est dans les années 40, la centrale de Chipcha, on y faisait référence un petit peu plus tôt, un record en termes de rapidité d'exécution. Il y avait 10 000 ouvriers qui y travaillaient jour et nuit. Ça s'est fait extrêmement rapidement. On écoute.
Canada, another great scheme in the making.
Au Canada, un autre grand projet, un barrage hydroélectrique est en construction à une vitesse record. Les coûts sont estimés à 100 millions de dollars. C'est au Québec. On parle ici d'une puissance d'1,5 million chevaux. Le plus remarquable, on y produira 750 millions de livres d'aluminium. Et ça, ça représente beaucoup d'avions.
Et on voit donc les images, construction, rapide durant la Deuxième Guerre mondiale pour contribuer à l'effort de guerre. Et c'est souligné ici parce que, notamment, ça va servir à la fabrication d'avions militaires extrêmement précieux durant la guerre. Bon, une fois la guerre terminée, il faut trouver des usages civils. Comment va se faire la transition de l'usage militaire à l'usage civil de l'aluminium?
Bien, cette industrie de l'aluminium est habituée depuis le début du 20e siècle à penser innovation, à penser débouché. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire en aluminium qu'on faisait autrefois en cuivre ou alors qu'on ne fait pas encore? Et là, on va se mettre à imaginer autre chose que des gamelles de soldats, des explosifs et des avions. Et c'est là qu'on va découvrir que l'aluminium peut se prêter à tant d'applications dans notre quotidien. Si on regarde autour de nous aujourd'hui, c'est assez difficile de ne pas voir de l'aluminium, que ce soit dans les canettes de boissons, par exemple. Oui. Les fenêtres, il y a beaucoup d'applications dans la construction, évidemment, mais beaucoup d'applications dans la vie de tous les jours, dans la cuisine, dans le quotidien, absolument partout. Et on utilise aussi beaucoup d'aluminium dans les batteries aujourd'hui.
Oui, oui, bien sûr, on va y revenir un petit peu plus tard, mais il y a l'Expo 67 hein, qui va servir justement de formidable vitrine. Là. C'est vraiment, ben, le monde est à nous, il y a Alcan, puis on produit beaucoup d'aluminium ici. C'est le temps de montrer l'innovation.
Ben, le métal magique du 20e siècle va évidemment prendre sa plus belle figure dans l'architecture moderniste de l'Expo 67. On sait que Buckminster Fuller ne pourra pas faire son dôme géodésique, ce qui est aujourd'hui la biosphère.
Oui. Ouais,
absolument, en aluminium. Mais
c'est pas en alu, ça?
C'est
non?
pas en alu, c'est en acier, c'est une tubulure d'acier, mais on sait qu'il aurait beaucoup aimé. Il fait à l'époque lui-même des expérimentations sur des maisons en aluminium et on va vraiment imaginer que ce métal magique du 20e siècle va permettre de faire la plus belle architecture, de l'architecture plus légère, des applications plus nouvelle, plus plastique, plus intéressante, plus esthétique, mais aussi permettre de faire des habitations peu coûteuses qui vont devenir accessibles pour tout le monde. Bref, loger la classe moyenne à l'échelle de la société en entier, comme on l'avait fait un peu à Arvida à l'échelle d'une ville.
Oui. Ben, un exemple ici, justement, la maison Alcan en aluminium. C'était au micro de Minou Petrovski à l'Expo en juin 1967.
Cette maison Alcan universelle, en quoi est-elle faite exactement, monsieur?
Elle est faite sur le même principe qu'une maison conventionnelle, en bois. L'extérieur est en revêtement Alcan, en aluminium. La fascia s'en fait, alors qu'il demande très peu d'entretien. La seule peinture qu'il y a à faire à l'extérieur, ce sont les cadres de portes extérieures et les portes extérieures.
Ça prend combien de temps pour monter une maison comme ça, tout installer, pour rentrer dedans?
Une journée et demie à 4 hommes pour la monter et l'attacher sur la fondation ou les piliers. Puis je devrais dire une autre journée pour faire la connexion nécessaire de l'électricité, de la plomberie et puis placer un petit peu l'ameublement, c'est tout.
Elle est faite pour qui? Pour des jeunes, pour des moins jeunes, vous pensez? Enfin, pour qui est faite cette
maison? Elle est faite pour tout le monde, en autant je suis concerné. Tout le monde peut acheter cette maison.
Ben, ça paraît presque trop beau. Pourquoi il n'y en a pas plus de ces maisons d'aluminium?
Ben d'abord parce que ça coûtait cher. Ensuite, il faut bien voir qu'Alcan, c'est une industrie qui produit de l'aluminium et pas des maisons. On a donc diversifié l'application dans l'architecture de l'aluminium. Et aujourd'hui, on ne pourrait pas imaginer construire de manière courante comme on le fait sans aluminium. Mais l'idée de la maison universelle en aluminium qui permettrait à tout le monde d'habiter, elle a été comblée, disons, accessoirement, un peu sur le modèle de la maison universelle, mais par des bungalows qui sont exactement comme la maison universelle à l'Alcan, mais disons avec parfois un peu de bois, parfois un peu d'autres choses.
Mais est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a au Québec de ces maisons d'aluminium?
On en a construit quelques quartiers. Il y en a à Candiac, il y en a à Saint-Bruno aussi, justement sur la rue Arvida, à Saint-Bruno.
Ah, mais tiens, ben oui, il y a une logique là-dedans. Hein?
Et puis, on a évidemment auparavant testé ces maisons en aluminium. Dès les années 20, on utilise à Arvida de l'aluminium dans l'architecture et c'est là qu'on va faire aussi le fameux pont d'aluminium d'Arvida.
Ah oui, ben, qui fait la fierté de la région.
Voilà.
Mais si j'en reviens à Expo 67, vous dites la biosphère, on rêvait de le faire en aluminium, ça ne s'est pas fait. Est-ce que des pavillons, plutôt on évoquait, je pense, les Pays-Bas, est-ce que des pavillons d'Expo 67 qui ont été construits en aluminium?
Oui, le pavillon des Pays-Bas est tout entier fait d'une tubulure en aluminium. Le pavillon de la France aussi avait des espèces de voilures qui sont en aluminium aussi. C'est le métal magique et puis c'est le métal moderne. Donc, on va le mettre absolument partout, qu'on soit québécois ou pas. C'est un objet de démonstration qui est un peu spectaculaire.
Oui, bien sûr.
Déjà au milieu du 19e siècle, on considéré comme de la magie, le fait de transformer l'argile en métal brillant comme celui-là. Et donc, ça va rester toujours un peu dans l'imaginaire collectif.
Oui, et puis en plus, ça ne rouille pas, puis c'est léger. Bon, si l'industrie de l'aluminium s'est développée, on l'a dit, c'est en grande partie grâce à l'électricité bon marché ici, chez nous, au Québec. Or, actuellement, on manque d'électricité au Québec. En tout cas, il faut en produire davantage. C'est ce que nous dit le ministre Fitzgibbon. Comment s'annonce l'avenir pour l'industrie de l'aluminium?
Bien, il y a toujours, en fait, l'aluminium. Aujourd'hui, on en fait aussi de deuxième fusion, d'aluminium recyclé. L'aluminium est recyclable à l'infini. C'est un de ses gros avantages industrielle. Mais il faut dire aussi qu'on continue de produire grâce à l'hydroélectricité qu'on a ici et grâce aux infrastructures hydroélectriques que l'industrie a elle-même développées. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'industrie est propriétaire de ces installations hydroélectriques. Donc, grâce à ces grands développements qui ont été faits dans l'entre-deux-guerres et un peu après, l'industrie continue de développer, de produire de l'aluminium de première fusion, donc de l'aluminium ordinaire, disons, tant et si bien que le Québec, aujourd'hui, produit à peu près 75 % de l'aluminium de première fusion en Amérique. Donc, pour toutes ces applications dont on a dit, et cet aluminium qui est produit avec cette hydroélectricité a aussi le grand avantage d'avoir un coût écologique qui est bien moindre que l'aluminium qu'on produit dans d'autres pays avec du pétrole ou avec du charbon, par exemple. Là, je pense qu'on peut imaginer très bien le coût écologique de ce genre de production. Si bien que l'hydroélectricité a ici aussi non seulement donné cette idée de produire de l'aluminium au début du 20e siècle, mais maintenant, au début du 21e siècle, de produire de l'aluminium plus vert. Le principal enjeu de la production de l'aluminium, le principal enjeu de pollution, c'est l'usage du carbone dans ce processus d'électrolyse. On utilise des électrodes de carbone qui se consument, et comme tout processus de combustion, c'est un combustible fossile, donc ça produit des gaz à effet de serre, ainsi de suite. On a donc commencé à faire ici au Québec de la recherche sur la production d'aluminium sans carbone, et on y arrive, on est en stade expérimental, évidemment, mais c'est en faisant de la recherche comme ça, d'abord qu'on avait produit avec du carbone la technologie AP60, qui prend beaucoup, beaucoup d'énergie pour produire de l'aluminium de manière moins polluante, et aujourd'hui la technologie Elysis, qui produit de l'aluminium de manière presque non polluante, puisqu'elle produit sans carbone, tout à fait sans carbone, grâce toujours à l'hydroélectricité.
Oui. Est-ce qu'il n'y a pas eu un passage à vide, justement, dans les années 90, début 2000, de l'industrie par rapport à aujourd'hui, justement, où là, tout à coup, on s'est mis à dire que c'était polluant et puis que, oui, les usines allaient ailleurs, il y avait un déplacement de la production?
Bien, toutes les usines sont polluantes et puis il y a eu en effet un déplacement de la production pour toutes sortes de raisons. C'est des questions de marché aussi, des questions de creux de marché. Ce qui a pu se passer aussi, c'est le développement de la deuxième fusion, le développement de l'industrie aussi dans des pays qui produisaient de l'aluminium, par exemple, avec du pétrole ou avec du charbon et qui sont aujourd'hui les principaux producteurs d'aluminium au monde. Donc, il y a tout ce brassage-là, si on veut, de déplacement mondial d'emploi. On a aussi longtemps cherché à produire de l'aluminium pour de nouvelles applications qui paraissaient moins évidentes parce qu'à certains moments, par exemple, le cuivre coûtait moins cher. Ça s'est rééquilibré aujourd'hui, puis on s'aperçoit, quand on regarde autour de nous, que l'aluminium est absolument indispensable dans tous les objets électroniques qu'on a, dans toutes les maisons qu'on a. Il s'agit donc aujourd'hui d'utiliser cet aluminium qui reste toujours un des trois éléments les plus présents de la croûte terrestre et le métal le plus présent de la surface de la Terre, de savoir l'utiliser pour qu'il puisse nous rendre des services sans nous coûter trop cher écologiquement et financièrement.
Oui. Depuis le début, on parle beaucoup du Québec, bon, Mauricie, Shawinigan, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Est-ce que d'autres exemples ailleurs au Canada où l'industrie de l'aluminium est intimement liée au développement d'une région, au développement économique et social d'une région comme ça?
Bien, le développement d'Arvida et des usines au Saguenay-Lac-Saint-Jean a provoqué le développement de Kitimat, qui existe toujours en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, il y a 10 alumineries au Canada, 9 au Québec et une à Kitimat, tout à fait dans l'ouest du Canada.
Oui, comme quoi, ça demeure quand même le chef de file. Bien, fort intéressant, on le voit, c'est beaucoup plus qu'un métal. C'est un métal qui avait une promesse d'avenir, c'est comme ça qu'on le présentait. Et puis, qui a contribué au développement de plusieurs régions au Québec, notamment le Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais également la Côte-Nord-Bécomo. Mon invité, je rappelle, Lucika Morissel est professeure au département d'études urbaines et touristiques et titulaire également de la chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup d'avoir été là, toujours un plaisir.
Merci.
Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire, à la recherche Sabrina Desnoyers, Annie Richer. Recherche d'archives, c'est Sophéline Gibson. De site Internet, c'est Ronald George. À mise en onde de Jacques Lebrun, Aujourd'hui l'Histoire est une émission de Jacqueline Castonguay. Si vous avez envie d'écouter ou bien de rattraper nos émissions, vous pouvez toujours le faire, je vous le rappelle, sur notre site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou bien sur notre application. Si vous voulez nous écouter en balado, c'est exclusif sur Radio-Canada Audio. Et puis, si vous voulez nous suivre, nous écrire, commentaires, suggestions ou autres, n'hésitez pas à le faire, c'est toujours un plaisir de vous lire. Facebook ou encore l'adresse suivante, histoire@radio-canada.ca. Ici Maxime Coutier, merci d'avoir été là. Bonne soirée. À demain. Au revoir. écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.
Découvrez la programmation 24-25 de l'OSM. Assistez au grandiose concert d'ouverture, Les Gourlidaires de Schoenberg, dirigé par Raphaël Payaré et réunissant plus de 350 artistes. Ou prenez part au Festival Mozart avec des œuvres maîtresses comme le Requiem et Così fan tutte. Économisez 25% à l'achat de 4 concerts ou plus. L'OSM, votre classique. En vente maintenant sur osm.ca et sur placedesarts.com. L'OSM est présenté par Hydro-Québec.